enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, 1 Jean chapitre 4. Attendons à ce que Dieu fait quelque chose en nous ce soir. Amen. Vous savez, mes amis, nous traînons nos problèmes, nous traînons nos difficultés, nous traînons nos dépressions, nos découragements comme un prisonnier là, dans le temps qu'on disait avec une chaîne et une grande balle qui a été attachée là. Nous traînons ça partout dans la vie. Il est temps que le Seigneur nous décroche, que nous laissons le Seigneur le faire. Parce qu'en ce qui concerne le Seigneur, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Amen. C'est à nous, vraiment, de saisir, et c'est ça que je veux parler ce soir. Je veux vous parler de la peur, de la crainte. Wow. C'est comme nous étions enfants, et on faisait semblant, Christine, d'être des fantômes, on faisait ouh, et on sortait de derrière les portes, et tout le monde sortait en arrière des amis, parce qu'on avait peur des fantômes. Mais, mes amis, il y a des choses bien plus terrible dans ce monde que les fantômes. Amen. Et on a souvent peur, mais en tant qu'enfant de Dieu, je crois que chacun de nous, une fois ou une autre, on expérimente la peur, mais il ne faut pas y rester. Il ne faut pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ vraiment marcher dans ce que Jésus a fait pour nous. La liberté des enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 4, au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qui nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Père, je te loue de toutes mes forces. Seigneur, je te loue de toutes mes forces. Tu es digne de confiance. Tu es digne, Seigneur, que nous mettons toute notre vie en toi, Seigneur, que nous basons toute notre vie en toi. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, viens nous visiter. On a confiance en toi. On attend à quelque chose, Seigneur. On attend à une visitation divine. Oh Seigneur, viens par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, une question je vous pose. Est-ce que la peur est toujours mauvaise? Dites-moi une fois quand la peur est bonne. Pour le péché. Il faut craindre le péché. Parce qu'il y a des ramifications terribles du péché. Une autre fois, quand la peur est bonne. Quand? Oui. Oui, c'est ça. Ben, ici, Walid, ils ne connaissent pas ça parce qu'il n'y a pas de serpent. On a un peu de vipères, mais pas beaucoup. Hein? La plupart des serpents marchent sur deux jambes ici. C'est autre chose. Quand on voit un serpent, moi, j'en ai vu, je me souviens, mon petit frère, il faisait le chasse avec moi quand il avait quoi, 8 ou 9 ans. Alors un jour, on était dans le forêt là, il était très courageux, lui, il marchait devant moi. tout un coup, il se tourne et comme une flèche, il part de Dieu. Il dit, c'est bon. Alors, il n'est pas resté pour voir si c'était un grand ou un petit. Il a seulement vu que c'était un serpent. Hein. C'est vrai, quand on voit un serpent, il faut filer. Et encore. Oui. Craigne Dieu. Amen. Et est-ce qu'il faut craindre papa? Si papa dit, faut pas faire ça. Ils font une certaine crainte, n'est-ce pas? J'étais chez un pasteur il y a plusieurs années de cela. Il avait deux enfants de bas âge qui étaient des petites, je ne vais pas dire ce qu'ils étaient, mais enfin. Et il a fait quelque chose à la table, un des enfants, et le papa dit, ne fais pas ça. Ne fais pas, je dis, ne fais, t'as vu? Il dit, t'as vu ce qu'il a fait? Je lui ai dit, il a fait. Et je voulais lui dire, écoute, j'ai une solution pour ce problème-là. Mais, amen, j'ai rien dit, c'était pas mon enfant, c'était son affaire. Mais il faut qu'on ait une certaine crainte des parents quand on est petit, n'est-ce pas? Et quoi, le policier? Amen. Les radars? Comme ça, il faut une certaine crainte, si vous avez du bon sens. Mais il y a une crainte qui détruit votre vie. Il y a une crainte qui détruit votre vie. Comme par exemple, le péché, oui, ça peut détruire votre vie. Mais est-ce que vous avez jamais eu des craintes qui vous ont paralysé? Combien d'entre vous, vous avez, si je vous disais, il faut ce soir que vous vous tenez devant toute l'assistance et vous nous donnez un petit enseignement de 15 minutes de la parole de Dieu. Combien d'entre vous, vous croyez que vous allez mourir de peur? Toi, de tout. Hein? Combien d'entre vous? Oui, oui. Il y en a qui ont peur. Mais je dirais qu'il y en a qui devaient. Je me souviens, quand j'étais au Texas toujours, il y avait un jeune homme qui disait, « Pasteur, le Seigneur m'appelle de prêcher. » Alors, moi, je voulais lui donner une chance. Je le laisse prêcher. Mais mes amis, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il était là, première fois qu'il prêchait. Il marchait comme un grand. Il disait à tout le monde ce qu'il faisait de mal. Là, vous, dernier rangé. Il faut jamais... Et lui, il était normalement au dernier rangé. Seulement, il prêchait, ce point-là. Et il était... J'ai dit, mais écoute, oh là là. C'est comme, j'ai entendu parler d'un jeune homme. Là, il prêchait. Et là, il est entré derrière l'estrade, vraiment comme un petit coq là. Et il commençait sa prédication. Et tout d'un coup, il oublie tout. Et tout était confondu. Il était humilié. Il est descendu. Et puis un vieux lui a dit, écoute, jeune homme, si tu étais entré derrière l'estrade, comme tu es sorti, tu serais sorti comme tu es entré. Amen. Amen. Il faut, écoute, même maintenant, avant de prêcher, je ne sais pas, Pasteur Jean-François, toi, mais moi, je tremble. Je tremble. Je crois que Jean-Marc ici, Pasteur Jean-Marc ici a dit une fois, que quand on sait qu'on doit prêcher le week-end, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Pour moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment sérieux de se tenir devant le peuple de Dieu. Je ne veux pas dire une bêtise, je ne veux pas vous écarter du chemin de justice, et je veux vraiment t'apporter quelque chose du Seigneur. Et ce n'est pas toujours évident. Je crains, j'ai peur. Et je crois qu'il y a, quand on dépasse ça, parce que d'une certaine, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, le Seigneur vient. Mais, mes amis, il y a même une crainte qui est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ces grands de ce monde qui se croient tellement, tellement intelligents, qu'ils écrivent des grands livres, ils disent, nous sommes des athées, et c'est pas Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais c'était un accident incroyable qui... moi, je me dis, ils sont tellement intelligents qu'ils sont devenus stupides. Amen. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Un petit qui n'a jamais fait des études, mais qui sait et qui connaît son Seigneur, est plus intelligent qu'un grand comme ça, qui a un PhD, qui a 3 doctorats et tout ça, mais connaît pas le Seigneur. Il est plus stupide que celui qui n'a jamais fait des études, mais qui connaît le Seigneur Jésus-Christ. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Mais je parle pas de cette crainte-là. J'avoue que depuis que je sois petit, je lutte contre la crainte et contre la peur. Tu sais pas si je suis le seul, c'est un peu ma nature. Je me souviens, on parle des fantômes. Frère, quand j'étais jeune, oh là là, il y avait des fantômes qui habitaient chez moi. J'en suis presque sûr, parce que cette vieille maison, je ne sais pas comment elle a fait des bruits comme ça. Je serais là dans mon lit, je me réveille 2 heures le matin et j'entends. Et j'étais pétrifié dans mon lit. Parce que j'avais vu un film d'horreur à la télévision et cet homme qui vient, qui coupait les têtes et tout ça. J'étais sûr, il était là juste derrière la porte et j'étais fini. Hein. Et mon petit frère qui était là, qui dormait dans le même lit, connaissait pas la peur, Alan. C'est pas qu'est-ce que moi, j'étais craintif, j'avais peur, beaucoup de choses, peut-être influence, des fois, des choses qu'on vit quand on est enfant, des parents qui sont peut-être tellement rigides avec nous que nous avons peur. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas bouger, parce que les parents sont toujours sur le dos. Et là, ils ont crainte de faire quoi que ce soit. Et c'est pas bien, les parents, attention! Attention, parce que tu peux tuer tout esprit de créativité dans tes enfants. Si tu es toujours derrière, ne fais pas ça. Attention, tu as peur. Oh, si tu fais ça, tu vas être écrasé d'une voiture. Si tu fais ça, quand je pense maintenant, on habitait la campagne, Alain. Et les choses que ma mère m'a laissé faire. Wow, incroyable. Partir la moitié de la journée et elle avait une idée vague de où j'étais. Mais c'était quoi? Et puis, on revenait. On revenait. Aujourd'hui, si tu sors de la maison, il faut une note de ta mère pour lui dire où tu seras toutes les minutes de la journée. Bon, c'est un autre temps, un autre âge, je suppose. Mais la crainte faisait partie de qui j'étais. Et les craintes changent avec chaque époque de ta vie, mais elles sont toujours là. Et je trouve que même maintenant, quand j'ai une grande décision devant moi, souvent la crainte vient pour me raccompagner. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu vas faire? Je me souviens, quand j'étais au Luxembourg, on arrivait à un moment, on avait réellement trouvé un bâtiment. Et là, je me suis dit, tiens, parce qu'on avait, notre salle était tout petite, on ne pouvait pas grandir, c'était une chose, je me dis, si on reste dans cette salle, on sera toujours tout petit le reste de l'existence de cette église, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors il faut qu'on prenne un pas de la foi. On cherchait un bâtiment, on en a trouvé. C'était pas exactement ce que je voulais, il manquait des choses, c'était juste aux limites de ce que je croyais qu'on pouvait faire, mais je me suis dit, il faut le faire. On était là, on priait, on cherchait la face de Dieu, et je me suis dit, tiens, Seigneur, si je n'y vais pas, ce sera comme les enfants d'Israël qui refusaient d'entrer dans le pays de promesse. Et là, on s'est lancé, et je dois dire, j'avais peur. J'avais peur. Je me suis réveillé la nuit parce que j'avais déjà fait des visites à la prison de Luxembourg et je ne voulais pas y habiter. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a si on ne peut pas payer les mensualités pour la salle et ceci, cela, etc., etc. Enfin, notre banquier, il était très, très bien, très gentil. Il dit, oui, on vous prête l'argent. Mais vous devez signer comme garante. Oh, merci, monsieur, c'est gentil. Vous allez ruiner ma famille pour les générations à venir, pour payer cette salle. C'est ça. Non, mais vous savez, à la fin, longue histoire, j'avais beaucoup de peur. Mais je croyais que j'allais dans le sens que le Seigneur voulait que j'aille. Et vous savez ce qui est bien? Si vous marchez par la foi, je crois que le Seigneur fera en sorte que même le mal tourne en bien. Parce que cette salle, que j'étais sûr que c'était la volonté de Dieu, tout d'un coup, on commençait d'avoir un problème, c'est une longue histoire, un petit détail légal, et il y avait un homme qui voulait pas que nous achetions la salle. Parce que lui, le nôtre, bon, je dis, est-ce qu'on enregistre ça? Oui, alors je dis pas. Mais il y avait une personne qui allait gagner l'argent si ça allait aux enchères. Et bon, cette personne m'a vraiment encouragé de ne pas le faire. Et comme ça, je pourrais avoir la salle beaucoup moins chère. Et ceci, cela. Et autrement, il y avait un détail pour qu'on puisse pas acheter tout de suite. Et tu dis, aïe, aïe, aïe. Mais je me dis, tu sais, Seigneur, si je fais comme ça, c'est pas légal. Comme il dit, c'est pas légal. Ça, c'est pas très catholique, ça. Et c'est surtout pas évangélique non plus. Hein. Et je me dis, il faut pas le faire. Je lui dis, écoute, j'achèterai la salle, mais seulement comme ça. Et ça tombait dans l'eau. Et je me dis, bon, maintenant, le Seigneur, il va nous le donner d'une autre façon. Et vous savez quoi? Le Seigneur ne nous a pas donné cette salle. Et un parti de moi était fâché avec Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai marché par la foi, et voilà ce qui arrive. Et l'autre côté dit, comme ça, je n'ai pas marché par la foi. Et vous savez ce qui s'est passé il y a quelques mois après cela? Un des leaders de l'église, il dit, hey, pasteur, tu sais, j'ai vu une salle pour vendre dans le journal, on va aller le voir. Alors, je suis allé, et quand je suis entré dans cette salle, j'ai dit, oh, ça peut aller. Parce que c'était plus grand que l'autre salle. Enfin, beaucoup plus grand que l'autre salle à la fin. Il y avait beaucoup plus de parking, c'était bien situé, et c'était beaucoup moins cher. Et le Seigneur a fait en sorte que ça allait tout seul. Et aujourd'hui, ils ont cette salle. J'avais peur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On a eu un prêt pour 15 ans. Et Seigneur, pas la foi, on va, on l'a payé en 9 ans. C'est tout à fait payé aujourd'hui. Cette église, elle a sa propre salle. Mais je vous dis, avant de le faire, le jour où j'allais signer le contrat, je n'ai pas dit, oh, gloire à Dieu, oh, j'ai la chair de poule spirit, oh, c'est super, j'avais un père bleu. Il y a une partie de moi qui dit, qu'est-ce que tu fais, David? Tu es stupide, quoi? Mais je croyais que c'était la volonté de Dieu. Et mes amis, la crainte vient contre nous pour nous vaincre, mais nous vaincrons la crainte par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous dire ce que j'ai fait, et c'est chose que je n'ai jamais fait avant ni après. Mais il venait un moment où je devais dire oui ou non pour la salle. Et je téléphonais à mon ami, vous avez vu le frère Joseph Atta qui est venu le mois d'août, et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce frère. J'ai dit, Joseph, écoute, voilà la chose, et voilà comment il sait, et les choses sont et qu'est-ce que tu penses? Alors, j'espérais qu'il allait dire, David, tu sais, l'assistance est petite pour le moment et c'est assez cher, peut-être il faut attendre. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ah, frère, ça sera formidable! Quel témoignage pour le Luxembourg! Ce sera formidable! J'ai dit, merci Joseph. C'était vraiment la parole de Dieu. Mais je lui ai dit après, écoute, si on ne peut pas le payer, je viens chez toi pour prendre une offrande. Mais j'ai pas dû le faire parce que le Seigneur, il était fidèle et il est fidèle. Mais ce que je voulais dire, mes amis, la crainte est souvent là quand vous voulez faire la volonté de Dieu. Même dans votre vie spirituelle, est-ce que ça vous arrive des fois? Vous savez, vous êtes dans une bonne réunion, vous sentez la présence de Dieu, vous dites, moi je suis sauvé, je sais que je suis sauvé, je n'ai aucun doute que je suis sauvé. Et puis, 3 heures plus tard, vous ne sentez pas le même sentiment, et vous dites, suis-je sauvé ou non? Est-ce que ça vous est arrivé? Je ne sais pas combien de fois, quand j'étais ado, on aura des réunions, des missions comme ça, et je serai là, et le Seigneur sera présent, et je sentirai quelque chose de tellement merveilleux. J'ai dit, je sais que je suis sauvé. Et puis, 3 heures plus tard, je n'avais pas fait de péché de ma connaissance, mais j'avais plus le même sentiment. Moi, je croyais, si vous étiez sauvé, que vous aurez toujours des très, très bons sentiments. Ce sera toujours le ciel dans ton âme, le sourire au visage, la victoire. Vous êtes comme ça, n'est-ce pas? Ah, oh, vous mentez. Je crois que nous tous, nous avons des combats. Moi, j'avais l'idée parce que c'est ma grand-mère qui m'a mené au Seigneur. Et c'est, enfin, j'ai connu beaucoup de chrétiens, beaucoup de grands hommes de Dieu. Mais je n'ai jamais connu quelqu'un qui dépassait grand-mère dans son marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La joie du Seigneur, si elle était en bas, moi, je ne le savais pas. L'amour qui venait d'elle. Mais je croyais que grand-mère et mon pasteur descendaient du ciel. Le pasteur tous les dimanches et ma grand-mère tous les jours. Ils étaient parfaits, jamais de problème, jamais de doute, jamais de questions. Ma grand-mère, elle a dit une chose qui m'a un peu choqué. Moi, je le prends par la foi. Foi dans la parole. Vous savez, c'est ce que Jean il dit ici. Il y a des gens qui ne sont pas parfaits dans l'amour. Et vous voyez un peu ce qu'il y a. Il parle de cette malassurance, si tu veux, dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se confient sur le sentiment. J'ai lu le témoignage d'un homme que j'admire beaucoup. Mais cet homme, il cherchait un sentiment d'être sauvé. Et il priait, et ça continuait même un certain temps. Il y avait même un homme qui a dit, oui, j'ai prié, 9 ans, et puis après, c'était 9 ans, après, j'avais l'assurance, enfin, un dimanche matin. Et je me dis, quoi? Est-ce que c'est ça le salut? Quand vous avez le sentiment, mes amis, moi, je crois que si Dieu dit quelque chose, Dieu n'est pas menteur. Il a dit, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et Bruno, moi, je m'appelle quiconque. Amen. Quiconque croit. Il n'a pas dit, quiconque aura un bon sentiment. Il n'a pas dit, celui qui aura le sentiment d'être au ciel. Il a dit, quiconque croit. Il a dit, tout homme qui fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Il a mis deux préalables pour être sauvé. L'un, c'est la repentance. Vous ne pouvez pas être sauvé sans se repentir de vos péchés. Il y a des gens qui disent, oh, seulement recevez le Seigneur, et vous serez sauvé. Vous ne pouvez pas recevoir le Seigneur sans la repentance. Mes amis, d'abord, quand vous êtes baptisés, j'ai dit ça avant, je taquine avec les nouveaux baptisés, mais je le dis, écoute, vous savez, quand je vous plonge dans l'eau, vous êtes sous ma puissance totale. Si je veux vous laisser là, vous serez là. C'est comme ça. Vous êtes, et quelque part, vous êtes mort. Et puis, vous sortez à une nouvelle vie. C'est le symbole du baptême. Mais mes amis, vous pouvez pas avoir une nouvelle vie avant que l'ancien soit mort. Et voilà la repentance. On dit, Seigneur, j'en ai assez de vivre pour moi-même. J'en ai assez de mon péché. J'en ai assez de mon égoïsme. J'en ai assez de voir les choses comme ce monde le voit. Je me repens de mon péché. Je me repens de ma façon de vivre. Je me repens de ce que j'ai fait contre toi. Seigneur, je me repens de mon égoïsme. Seigneur, je me tourne vers toi. Ça, c'est la première chose. La repentance, c'est faire demi-tour. Demander pardon, mais c'est beaucoup plus que demander pardon. Parce qu'il y a des gens qui veulent le pardon du péché, mais ils veulent rester dans le péché. Ça ne marche pas. Je suis en train, David, de réfléchir sur un livre. Je vais être riche après avoir écrit ce livre. Et le nom de ce livre, c'est Comment être pardonné et rester dans vos péchés? Si jamais je figure comment le faire, je serai riche. Mais je n'ai jamais figuré comment le faire. Si moi je me repens de mes péchés, je quitte mes péchés. Amen. Il y avait des gens qui me sont venus maintes fois en tant que pasteur. Pasteur, voilà notre problème. Je vois tout de suite le problème. C'est le péché. Mais si vous le dites, quittez votre péché. Et tourner vers le Seigneur. Non, c'est pas ça. On veut une autre solution. Excuse-moi, mais si ça, c'est votre problème et vous êtes dans le péché, je n'ai pas d'autre solution. Quittez votre péché. Au moins, ma femme est contente. Amen. J'ai dit, si vous êtes dans le péché, quittez votre péché. Vous pouvez venir chez moi, chez Pasteur Jean-François, chez Pasteur Jean-Marc aussi, sur tous les diacres de l'église, sur tous les pasteurs à Paris. Et si vous ne quittez pas votre péché, on n'a pas de solution. Ça commence avec la repentance. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et puis, je quitte mes péchés. Comme René a bien dit, ça ne veut pas dire que des fois on ne tombe pas. Malheureusement, on est humain. Malheureusement, on est, aussi longtemps qu'on est dans cette chair, on aura des combats avec la chair. C'est pas facile. Et mes amis, chacun de nous, des fois nous qui marchons assez longtemps avec le Seigneur, nous nous croyons très spirituels. Parce que nous ne fumons plus. Nous ne buvons plus trop. Nous ne chassons pas des jupes, courons pas des groupes, les jupes, sais même pas comment le dire. Ne, qu'est-ce qu'on va faire? On ne dit pas des gros mots. On est spirituel. Mais on a une langue qui descend les autres. Je l'ai déjà dit, et vous devez me pardonner, mais c'est tellement vrai. Des langues ont causé beaucoup plus de problèmes dans l'église que les cigarettes. À la limite, je dirais que les langues ont causé plus de problèmes que même l'adultère. Et je ne suis pas pour les cigarettes, c'est un péché. L'adultère, ça détruit les familles, ça détruit les églises, ça détruit la crédibilité. J'espère que c'est rare. Mais les langues, oh là là, qui ne sont pas disciplinées, qui descendent les autres, sont tellement communs. Et là, on ne reconnaît même pas que c'est un péché. Je crois qu'il faut que nous fassions une sortie de secours. Tu es d'accord? Ok, ça va bien. On va faire comme le football américain. Si je dois sortir vite, tu vas me protéger, ok? Non. Il a ses propres problèmes avec ses prédications. Qu'est-ce que tu veux dire, David? J'ai dit, écoute, moi j'aimerais bien vous critiquer, mais moi aussi j'ai des combats avec ma langue, avec mon attitude, avec mon esprit. Moi, je veux plaire au Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, tout au début, il y a des choses qui sont tellement évidentes. J'ai entendu un frère qui prêchait aujourd'hui, il parlait de comment quand il est venu au Seigneur, vous qui lisez Victoire, vous avez lu son témoignage sans doute, mais il a dit, quand je suis venu au Seigneur, j'avais les cheveux longs, j'avais des plumes et des tresses dans mes cheveux, et il était déjà dans l'église. Et il a dit, il y avait des chrétiens qui ne le saluaient même pas, parce qu'il avait les cheveux longs. Il a dit qu'il y avait certaines, il venait seulement pour dire, est-ce que vous ne savez pas que la Bible dit que pour un homme d'avoir les cheveux longs, c'est une honte? Il dit, oh, j'espère que ce n'est pas dans la Bible parce que je ne l'ai jamais lu, il était tout nouveau. Et nous les chrétiens, nous sommes tellement spirituels. Toi, moi, je suis bien. Moi, le Seigneur, il a un sens d'humour assez bizarre. Parce que là, il m'a donné la pousse d'un prédicateur. Tu vois, Marie-Yvonne, il est bizarre celui-là, n'est-ce pas? C'est seulement des gens qui sont extra-intelligents qui sont capables de faire ça. J'espère. Vous voyez, ça retourne. Mais le problème, c'est que quand je fais comme ça, ça me fait comme ça. Alors quand je vous dis, arrêtez le péché, il y en a un qui vient dans mon sens aussi. Vous voyez? Et je trouve qu'il est beaucoup plus facile, sous l'onction du Saint-Esprit, de vous dire comment vivre votre vie que de me comporter de la même manière le lundi, mardi, mercredi. Parce que vous savez, je le prêche, mais moi aussi, je suis en train d'essayer de conformer ma vie par la puissance du Saint-Esprit à la parole de Dieu. Et peut-être mes péchés, mes batailles ne sont pas ce qu'ils étaient. Elles étaient il y a quelques années de cela. Il y en a, gloire à Dieu, le Seigneur m'a aidé de vaincre cela. Mais maintenant, oh là là, des fois l'orgueil. Des fois, quelqu'un marche sur ma territoire. Wow, je réagis, je suis comme une mine. Ils ont touché le mine et ça explose. Des fois, mon attitude devant le café le matin, c'est pas tellement bien. Normalement, je me lève avant ma femme. Des fois, Jésus me dit, mais pourquoi? Mais je crois qu'elle attend jusqu'à ce que je bois le café avant de se lever. Je suis beaucoup plus agréable après. Amen. Je viens d'avoir cette révélation. Hein. Alors, mais mes amis, écoute, chacun de nous, nous sommes en formation par le Saint-Esprit. Et là, au lieu de craindre, au lieu de dire « suis-je sauvé, suis-je pas sauvé », commencez de prendre la parole de Dieu. Et tu as dit « Seigneur, si tu confesses tes péchés, tu m'as dit, si je confesse mes péchés en Jean 1, 8, 9, 10, Si tu es fidèle et juste de me pardonner mes péchés, de me purifier de toute injustice. Voilà ce que tu dis dans ta parole. Et là, il dit aussi, mes petits enfants, je vous écris ces mots pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Père Jésus-Christ le juste. Amen. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on tombe? Relève-toi, demande pardon. Et si tu tombes de nouveau dans le même endroit, lève-toi, demande pardon et continuez jusqu'à ce que vous vaincrez cette situation. Parce que si vous êtes sérieux devant le Seigneur, plus tôt ou plus tard, vous allez avoir la victoire. Ce n'est pas une excuse pour le péché. Mes amis, le péché, c'est horrible. Le péché nous empêche de faire tout ce que le Seigneur veut que nous fassions. Mais si vous avez péché, n'arrêtez pas. Repentez-vous. Revenez devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire son travail en vous. Et puis, quand l'ennemi vient avec ses sentiments, quand l'ennemi vient avec ses mensonges et qu'il dit, oh, vous n'êtes pas vraiment sauvés. Vous croyez que quelqu'un comme vous, Jésus va vous sauver? Tes sentiments, tu ne sens pas sauvé, n'est-ce pas? Tu sens comme quelqu'un, tu as des sentiments de quelqu'un qui n'est pas sauvé, tu es découragé. Pasteur dit le dimanche, il faut un gros sourire, regarde-toi, tu as une grimace, comme quelqu'un qui a été baptisé dans le jus de citron. Toi, les autres ont de la victoire, tu es différent, tu es l'exception, Dieu pardonnera tout le monde sauf toi. Vous allez croire qui? Vous allez croire Dieu? Vous allez croire Satan? J'admets, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, des fois, c'est difficile à croire. Pourquoi Dieu me pardonnera-t-il? Qu'est-ce qu'il a? Mais mes amis, il le fait parce qu'il nous aime. Et c'est toujours l'équilibre là qui est tellement difficile parce que d'un côté, il y a des gens qui sont vraiment libres. Ils font toutes sortes de bêtises. Ils disent, oh, je suis sauvé parce que de toute façon, je sais que c'est pas bien, mais je suis sauvé, Dieu me pardonne, ça va, c'est pas grave. Si, c'est tellement, tellement grave. Votre péché a cloué Jésus à la croix. Et si vous pouvez pécher à la légère, moi je me demande. Si ça ne vous fait pas quelque chose, je me demande où vous êtes avec le Seigneur. Mais le fait que vous avez mal quand vous péchez, c'est un bon signe que vous êtes chrétien. Parce que le monde, ils pêchent, ils sont contents. Quand ils font la fête jusqu'à 4h le matin, ils reviennent comme ça, ils avaient fait toutes sortes de bêtises, ils sont contents. Mais si un chrétien fait ça, il est malheureux comme tout. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un mauvais témoignage. Moi, je m'appartiens à toi. Et là, devant les autres, je me comportais comme quelqu'un de ce monde. Et c'est devant toi qui a tout donné pour me sauver. Et voilà ce que j'ai fait. Un chrétien ne peut pas pécher à la légère. Amen. S'il pêche, ça lui fait tellement mal que plus tôt ou plus tard, lui et le Seigneur, ils vont vaincre cette situation. Mais, mes amis, nous réjouissons en ce que Jésus a fait. La crainte est bannie par notre réjouissance en Jésus. Pierre a dit ceci. Il dit, vous réjouissons d'une joie ineffable. Ineffable. Ineffable, c'est ça? Ineffable, qu'est-ce que ça veut dire? Ineffable. Qu'est-ce que ça veut dire, ineffable? Bon, c'est foncé. C'est dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire, ineffable? Une joie grandiose. Ouais. Une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous croyez, et vous êtes sauvés. Mes amis, je crois que des fois, quand le Seigneur vient dans la réunion, et passe sa parole, et passe son esprit, il commence à nous révéler ce qu'il a fait dans notre âme. Ouh! Amen! Nous sommes des schtroumpfs grognons! Parce que nous ne pensons pas à ce que Jésus a fait pour nous! Nous pensons à nos problèmes! Nous pensons à ce que quelqu'un a dit. Nous pensons à ce que quelqu'un a fait. Nous pensons à ce notre patron qui est bête. Notre femme qui nous casse les pieds. Nos enfants qui reviennent à la maison avec 4 sur 20 chaque fois. Mon mari qui me casse les pieds. Ça, je ne connais pas. Ouais. Hey, pasteur, c'est une confession de foi. C'est prophétique, peut-être, qui sait. Hein? Oui. Ah, je suis perdu maintenant. Oui, on insiste sur les choses qui... Il y avait, quand j'étais jeune, une bande dessinée qui s'appelait Little Abner. Et c'était les hillbillies, les montagnards là qui étaient un peu arriérés. Mais il y avait un homme qui s'appelait Joe Buffleslix. Il avait un nom bizarre. Et là, partout où il allait, il y avait une petite nuage noire qui le suivait. Et ça pleuvait sur sa tête. Et le soleil brillait pour tous les autres. Celui, tout allait mal. Tout allait au contraire. Il avait cette petite nuage qui le suivait partout. Et partout où il allait, ça n'allait pas. Négatif, frustré, comme ça. Et vous savez, il y a des chrétiens comme Job, je ne sais pas comment dire son nom, mais comme lui. C'est pas comme ça la vie. Si vous êtes sauvés, mes amis, vos péchés sont pardonnés. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi j'aime à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Mais beaucoup d'en... Je suis malheureux parce que j'ai des problèmes. Par son amour. Mes amis, c'est toi qui décides. Combien d'entre vous, vous aimez le music rap? Laisse-moi voir la main. Je vais prier pour vous. On en a un qui en est. J'en ai, mais je crois qu'il y en a d'autres aussi. Hein. Mais le rap chrétien, n'est-ce pas? Oui, je suis sûr. Hey, combien d'entre vous aimez le jazz? Pasteur, il faut vraiment comprendre. Hein? Le classique, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui aiment le classique? Oui. Oui, moi, j'aime ça aussi, la louange. Mais vous savez quoi? Quand le rap vient à la radio, j'avoue, j'aime pas. Vous savez ce que je fais? Est-ce que je l'écoute? Ma radio, il y a un petit truc là qui est formidable. Je pousse un bouton et ça change, Frédéric. Et si je n'aime pas ce que j'entends de nouveau, je pousse un autre bouton. Jusqu'à ce que ça arrive à quelque chose que j'aime. Et vous savez, dans votre esprit, il y a des mêmes boutons. Et là, quand l'ennemi vient, il dit, oh, vous n'êtes pas sauvés, ceci, cela. Mes amis, il faut pousser le bouton. Il faut changer le canal. Amen. Vous lui dites ce que Jésus a dit. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le chasser. Amen. Tout homme qui croit sera sauvé. Voilà ce qu'il dit là-bas. Oui. Voilà ce... Qu'est-ce qu'il y a? Une bête. Amen. Voilà. Mais mes amis, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous allez croire ce que Dieu a dit ou est-ce que vous allez croire vos sentiments et vos émotions? Je parle aux gens qui vivent la vie de tous les jours parce que 80% d'entre vous aujourd'hui, vous avez lutté avec les émotions et les sentiments. 80% d'entre vous aujourd'hui, vous avez eu des choses qui vous ont essayé d'écraser. Soyons tout à fait honnêtes. Combien d'entre vous aujourd'hui, vous avez eu une situation qui vous a fait craindre un peu, qui vous a fait un peu peur? Laisse-moi voir la main. Est-ce qu'il y en a? Mes amis, prenez cette situation. Multipliez-la par 100, 200 ou 300. C'est la vie. C'est la vie. Et chacun de nous, nous avons des situations difficiles. Le frère Wally, là où son travail, il y a des problèmes qui vont avec ton travail, n'est-ce pas? Et tu es loin de ton pays, tu es un étranger en France. Alors, il y a des choses qui vont avec ça aussi. Parce que tu es vivant, parce que tu respires, il y a aussi des problèmes, n'est-ce pas? Pardon, toi? Oui, tu es loin de moi aussi, hein? Moi aussi. Enfin, je crois que la plupart d'entre nous sommes loin de notre pays. Ouais, mais pas toi. Tu es tout près de ton pays. Hein? Mais vous savez ce que je veux dire, mes amis? La crainte, ça vient à tout le monde. Ça vient à tout le monde. Vous avez des enfants et tout d'un coup, vous entendez, oh, la bourse, ça craque maintenant. Et si la bourse craque, oh, peut-être l'usine va plus tourner. Et si l'usine ne tourne pas, moi, je serai au chômage. Et qu'est-ce que je vais faire pour nourrir mes enfants? Hein? Laisse-moi vous dire, il y en a. Et si je dois faire attention, des fois je me gonfle tellement des actualités de tous les jours que, et je vous assure, ça passe pas à la télévision si c'est bon, non? Pour la plupart, normalement ils cherchent le plus difficile et chaque chose qui est là, ils le gonflent. Si c'est petite, wow, c'est la fin du monde. Et tu regardes ça et ton corps dit, oh, wow. C'est Armageddon, demain. Alors moi, je vis avec un œil sur l'avènement du Seigneur. Je suis prêt pour son avènement. Mais mes amis, en même temps, je sais que tous les jours, j'ai des confrontations avec l'ennemi et je peux avoir peur. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, donne-moi 10 minutes et je prendrai probablement 15, mais je veux terminer ce message. D'abord, ce que je veux dire, si l'ennemi vient avec ses doutes sur votre salut, dites-lui ce que la parole dit. Ne lui dites pas ce que tu ressens, parce que tes sentiments, ça change tous les jours. Dites-lui ce que Jésus a dit dans ta parole. Décidez que vous n'allez pas vraiment humilier le Seigneur en montrant devant le monde que tu n'as pas confiance en ce qu'il a dit. Il a dit qu'il te sauvera si tu viens dans la repentance et la foi, il te sauvera. Et n'humilie pas le Seigneur en disant, non, je ne crois pas que ça c'est vrai. Parce que je suis venu et je n'ai rien senti. Mes amis, nous jetons de la boue sur l'honneur de notre Seigneur que nous refusons de croire. Un homme qui est Mathieu Henry, il a dit une fois, Dieu honore la foi, la vraie foi, plus que toute autre chose. Parce que la foi, la vraie foi, honore Dieu plus que toute autre chose. Si vous voulez honorer Dieu, ce n'est pas seulement dans la louange de la prédication. Ça, c'est super, faites-le. Mais si vous voulez vraiment donner gloire à Dieu, vivez votre vie dans la confiance que ce qu'il a dit dans cette parole est vrai. C'est pas un mensonge. Et vivez comme ça. Mettez votre vie et votre confiance en lui. Et puis, ne laissez pas la crainte vous tuer. Ne laissez pas la crainte vous tuer. Il y a, j'aime bien dans la Bible, Gédéon, la Bible l'appelle un vaillant guerrier. Moi, j'aurais appelé un poule mouillée. Il a dit en Gédéon, en Juges chapitre 6, bon, je vais le lire pour vous. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et il était caché parce que les ennemis venaient dans le pays, prenaient tous les vivres. Alors il était là en train de travailler pour cacher le blé après, et il savait pas ce qui s'est passé parce que les ennemis venaient toujours. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros, en train de se cacher là dans ton coin, vaillant héros. Mais il n'a pas dit ça de ce qu'il voyait, l'ange. Il disait ça par la foi en ce que Dieu le Père a dit. Ah, mon Seigneur, Gédéon lui dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, notre pauvre Gédéon, il a trop parlé, Aldrich, et quand moi j'ouvre la bouche tout grand, le Seigneur dit, ok, tu as la foi, allez, allez, le petit David là, tout petit, cheveux rouges, les autres grands, il dit, mais qui est ce genre, qui est géant, qui insulte les armées de Dieu vivant, il insulte notre Dieu. Vous savez, David était zélé pour la réputation du Seigneur. Il est temps que le peuple de Dieu soit zélé pour la réputation de Jésus. La réputation du Seigneur est salée partout ici en France, ici à Paris, dans le monde entier. Les gens l'insultent, les gens ils blasphèment, ils blaguent au sujet du Seigneur Jésus-Christ. S'il prend le nom du Seigneur dans la bouche, c'est une niaiserie, c'est une blague. Blasphème. En venant, je voyais une publicité de Quick là. Ils avaient un cheeseburger démoniaque. Je dis, oh là là, ils n'ont pas peur ceux-là. Ils n'ont pas crainte ceux-là. Moi, je vais à McDonald's. S'ils ont des démons chez Quick, je n'y vais pas. C'est pas une publicité ça, c'est un constat. Non, non, mais pas cela, je veux dire, ils n'ont pas peur. Mes amis, je ne crains pas les démons, parce que dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Mais je ne prends pas ces choses à la légère non plus. Et quand tu prends les choses à la légère comme ça, tu invites des problèmes. Moi, je suis protégé par le sang de Jésus-Christ. Un démon ne peut pas arriver jusque chez moi, parce que je suis l'homme du Seigneur, et vous êtes la femme, l'homme du Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais je ne joue pas avec ces choses non plus. Moi, je ne joue pas avec le horoscope. Je ne veux pas, je joue pas avec l'astrologie. Tout ces, même si c'est un jeu, je le laisse à côté parce que je sais que c'est démoniaque, c'est du diable. Moi, je ne blague pas là-dessus. C'est sérieux. Et nous vivons dans un pays, dans un monde qui n'est pas sérieux en ce qui concerne les choses de Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu se tienne debout et dise comme Guise Gédéon, mais où sont les prodiges dont on a entendu parler? Et juste on dit ça dans nos prières le vendredi et dans la semaine, jusqu'à ce que le Seigneur arrive en scène et dit, alors, maintenant, allez-y! Alors, la première partie, Bruno, c'est beaucoup plus agréable que la deuxième partie. De dire, mais on ne voit pas des miracles comme dans le temps. Oh, tu sais, nous ne sommes pas ce que nous étions dans le passé. Oh, ça, c'est bien. Mais quand le Seigneur vient et dit, ah, viens maintenant, va, fais quelque chose. Moi, je serai avec toi. Tu dis, Seigneur, j'avais l'idée que tu allais envoyer Pasteur Jean-François, pas moi. Parce que tu sais, moi, j'ai une femme et beaucoup de petits enfants, et Seigneur, tu sais, et c'est sympa, j'ai dit, oh, mais qui suis-je? Comme Moïse, il brûlait de l'injustice que les Égyptiens faisaient contre son peuple. Mais quand le Seigneur venait dans sa puissance, il dit, Moïse, allez! Moïse dit, mais qui suis-je? On voit quelqu'un d'autre. J'ai dit, oh, mais Seigneur, ma famille, mon tribu, c'est le plus petit en Israël, qui suis-je? Mais il a dit, va avec cette force que tu as. Alors, il sonne la trompette, raccourcit l'histoire. Il y a 30 000 personnes qui viennent. Ils sont là avec lui. Ils tremblent. C'est comme le vieux chant de rock and roll. There's a whole lot of shaking going on. J'espère que vous n'avez pas compris. Mais, il y a beaucoup de tremblements. Hein? Beaucoup de tremblements. Et là, le Seigneur lui dit, Gédéon, dites à tout le monde qui a peur de rentrer à la maison. Vous imaginez la guerre. Ils sont tous les ennemis là. Féroces, méchants, grands rires au visage, des cicatrices partout, des tatouages partout sur le visage. Comme des joueurs de rugby avec des couteaux, des fusils de chasse, des grenades, des avions de chasse, des canons, des bombes atomiques et tout ça. Et le sergent nous dit, si tu as peur, tu peux rentrer à la maison. Oh oui. Alors, il n'y avait que 2/3 qui sont allés à la maison. Et j'imagine que le pauvre Gédéon, il disait, oh Seigneur, mais c'est vrai. Est-ce que vous croyez que les 10 000 qui sont restés n'avaient pas des doutes et un peu de crainte aussi? Je crois que quelqu'un qui va dans la... Bon, peut-être la mortier, non. Parce qu'il y a des fous qui aiment bien la guerre. Et c'est, ils sont des têtes brûlées, ils aiment bien des choses comme ça. Alors, eux, ils n'ont pas de peur, mais ils sont stupides. Okay? Mais l'autre mortier, moi, je dirais que l'homme valeureux, il a quand même peur. Il a quand même une crainte. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de faire son travail même quand on a peur. Parce qu'on aime son pays, parce qu'on aime son camarade qui est juste à côté. Et dans l'église, parce qu'on aime l'église, et parce qu'on aime Jésus, et parce qu'on aime ce que Dieu veut faire dans ce monde. Vous voyez? Alors, 10 000 qui restent, et le Seigneur dit, c'est encore trop. Alors, bon, Gédéon, ils iront voir par un test là, 9 700. Il lui reste 300. Wow! Alors, Seigneur, maintenant, c'est encore trop. 300 personnes, eux, ils sont des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. Et le Seigneur dit, maintenant. Et puis, Gédéon, il tremblait un peu toujours. Il dit, alors, Gédéon, tu vas faire ça. Tu vas t'approcher dans la nuit de le camp et tu vas entendre ce qu'ils disent. Et voilà, Gédéon, il est là, il écoute à la porte, je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, il entend là, tu sais, j'ai fait un rêve hier soir. Et voilà, je ne me souviens plus, je crois que c'était un grand pain qui a renversé les tentes de Médian. Et son copain a dit, oui, mais c'est Gédéon qui va faire ça. C'est lui et Israël qui va nous renverser. Alors Gédéon, waouh, il court. Attends. Il a toujours 300 personnes. Eux, ils ont toujours 100 000, je suppose. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a entendu, mais s'il y avait des avions de chasse qui venaient, ça m'aurait soulagé un peu plus qu'entendre un rêve. Parce que des rêves, comme je dis, ça vient des fois de pizza. Et peut-être que cet ammonite avait mangé de pizza cette nuit-là. Je ne sais pas. Mais vous savez quoi? Gédéon était dans la volonté de Dieu. Et il a pris courage parce que c'était une révélation. Le Seigneur lui dit, va, tu vas entendre. Et le Seigneur lui a révélé. Chacun de nous, quand je dis qui a eu crainte, qui a eu peur aujourd'hui, presque chacun a levé la main. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire devant la crainte? D'abord, prendre la parole de Dieu au sérieux. Nous prenons la parole de Dieu comme si c'était Harry Potter. Nous prenons la parole de Dieu comme si c'était un bon conte fait, ou si c'était quelque chose d'intéressant, ou bien le petit livre de Mao, ou bien le Coran. Un bon livre de proverbes, un bon livre de vous dire comment vivre votre vie. Mes amis, c'est la parole de Dieu éternel. Elle est sortie de sa bouche. C'est sa souffle qui a ensoufflé cette parole. Elle est puissante. Et quand nous y ajoutons notre foi, le bombe atomique n'a rien comparé à la parole de Dieu. Le bombe atomique peut détruire le monde. Mais mes amis, cette parole peut sauver le monde. Le bombe atomique peut tuer, mais cette parole-là peut faire vivante. Le bombe atomique peut écraser, mais cette parole-là, elle peut changer ta vie. Elle peut changer ta situation. Mes amis, si vous avez peur, au lieu de rester dans votre peur, commencez de prendre la parole de Dieu. Quelqu'un a dit récemment, j'ai entendu quelque chose comme ceci, une des hantes de l'Église, et combien de chrétiens, la Bible a de la poussière sur la couverture, parce que ce n'est jamais ouvert. Mes amis, comment vous allez vaincre l'ennemi si vous ne prenez pas une de vos armes, la prière, la parole et les autres frères et sœurs dans la réunion? Ce sont des armes les plus fortes que nous avons. Et là que nous mettons notre confiance en Jésus et nous mettons notre confiance dans sa parole, il nous exauce, il répond à notre prière. Mais si vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Appuyez sur vos émotions? Mais ça change avec le temps. Ça change avec le jour. Ça change avec la situation. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait est vrai éternellement. Et si vous êtes craintif, et si vous avez peur, ok, vous êtes humain, mais n'y restez pas. Parce que vous n'êtes pas fait parfait dans l'amour si vous restez dans votre crainte. Prenez la parole. Commencez de le dire. Commencez de la méditer. Si quelque part dans votre vie, vous n'êtes pas dans l'obéissance à la parole, alors repentez-vous et mettez votre vie en règle avec la parole. Parce que vous pouvez la confesser et la méditer toute la journée. Si vous ne lui obéissez pas, ça ne fait rien. Ça nuit toute votre confession. Ça nuit toute votre méditation. Mais si vous obéissez à la parole de Dieu autant qu'il vous est possible, vous commencez à dire, Seigneur, voilà ce que tu as dit dans la parole. Tu as dit, en Ésaïe, j'ai souligné des promesses pour mes enfants. Et j'ai dit, Seigneur, voilà pour mes enfants. Tu vas sauver mes enfants. Moi, je suis, voilà ce que tu as dit. Seigneur, tu m'as fait cette promesse. J'insiste. Si vous êtes malade, commencez à dire, Seigneur, tu as dit que tu as porté nos douleurs. Tu as porté nos maladies. Et c'est par tes maîtrisures que nous sommes guéris. Dis, Seigneur, tu as dit, le psaume chapitre 101 ou bien 103, je ne me souviens plus, mais tu as dit, tu pardonnes toutes nos iniquités. Tu guéris toutes nos maladies. Tu as dit dans ta parole, je suis Dieu qui te guérit. Jéhovah Rapha, je suis ton docteur si tu veux. Dans le Nouveau Testament, il a dit, « Par ses maîtrisures, nous avons été guéris. » Prenez la parole. Rappelez Dieu de ce qu'il a dit. Il n'a pas oublié, mais il aime bien. Il aime bien. Insistez, Seigneur. Voilà ce que tu as dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit, Seigneur. Je n'étais pas obligé de le faire. Mais Seigneur, tu l'as quand même dit. Tu l'as quand même dit. Ce soir, et je termine avec ceci. Si vous avez peur, j'aimerais bien vous lire quelques versets, puis on va prier. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Alain. Ô Sabine. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô pasteur Jean-François. Frédéric. Ah! Mettez votre nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle pas ton nom, tu es à moi. Alors, ça, je crois pas. J'aurais cru, Sandrine, quand je disais ça, quand je lisais que Dieu disait que nous sommes en lui, que tout le monde soit debout en train de louer le Seigneur. Mais ils attendent justement, je sais. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, combien d'entre vous traversez les eaux difficiles ce soir? Laisse-moi voir la main. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que vous avez rappelé au Seigneur aujourd'hui qu'il a dit qu'il sera avec toi quand tu traverses les eaux? Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Le nez sera toujours à l'extérieur. Peut-être le reste sera sous l'eau, mais le nez sera là. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la femme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Comme le pasteur Jean-François a prêché le dimanche, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Vous avez entendu ça? Tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Ouh! Alléluia! Amen! Lève-nous, louons le Seigneur. Dis Jésus, dans le Dieu traversant, tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas dans ta situation. Maintenant, commencez de confesser la parole de Dieu. Commencez de lui dire, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, les eaux ne me submergeront pas. Seigneur, le feu ne me brûlera pas. Car tu es mon Dieu. J'ai du prix devant tes yeux. Ma vie est précieuse pour toi. Tu connais mon nom, Seigneur. Tu sais où je suis. Tu sais ce que je vis maintenant, Seigneur. Je suis devant toi. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Dans cette situation, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Alléluia. Alléluia. Commencez de lui dire ce qu'il a dit dans sa parole. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu ne m'abandonneras pas. Oui, Seigneur. Tu ne m'abandonneras pas. Oh, les fleuves, Seigneur. Je ne vais pas me noyer. Je ne vais pas être brûlé. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur Jésus, je suis plus que vainqueur. Ce n'est ton peuple, nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette salle ce soir, ton peuple lève ta voix pour t'honorer, parce qu'il croit, Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.